Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Alors Félix, il y a encore des gens qui comprennent strictement rien.
Oui, effectivement. Puis, hey, avant de me rendre là, avant de me rendre au parc La Fontaine pour te parler des gens qui fonctionnent, qui ne comprennent rien, oui. Tu que je te dise comment l'appel que je viens de faire, qu'est-ce que l'appel que je viens de faire pour une histoire qu'on va publier jeudi vient de me donner comme réponse.
C'est quoi?
J'appelle quelqu'un pour lui demander une réaction à une nouvelle que je te dirai pas parce qu'on va la publier lundi.
Ok.
Puis là, je l'appelle puis je lui dis bonjour. Ici Félix Séguin du bureau d'enquête. J'aimerais vous poser une question. Et là, il parle. Il dit, you disgusting piece of shit motherfucker. Fuck. Il raccroche. J'ai jamais vu.
Ça veut dire que t'es connu maintenant dans la communauté anglophone.
Oui, exactement. Bon, j'ai percé les frontières, Richard, là, en fait, je me suis rendu dans le West Island. Je suis pan-montréalais, si tu veux. Alors,
c'est ça. Est-ce que c'était quelqu'un du milieu criminel qui te parlait comme ça?
C'était quelqu'un du milieu criminel.
Ah, ben voilà.
Tu vois, on n'a pas des fois où on n'a pas besoin de certains amis, n'est-ce pas?
Mais Félix, on n'a pas besoin d'être amis avec les gens
qu'on connaît.
Oui, moi personnellement, je sais pas ta blonde comment elle vit avec ça. Je sais pas si tes enfants sont au courant de la job que tu fais, mais de savoir qu'il y a des gens du milieu criminel qui sont en tant contre moi, ça me mettrait un peu mal à l'aise, moi.
Ben écoute, il y a une question de gestion qu'on fait bien là, dans ça. Là, on gère bien cette portion-là de ma carrière. Je la gère bien moi-même, pas avec. Je ne suis pas hystérique quand ces choses-là arrivent. Puis d'abord, ça aide à calmer le reste de ma famille. Et incidemment, quand cette personne-là vient de me dire ça, mes enfants étaient ici, ma blonde était ici. ils ont bien compris que quelqu'un est en train de me savonner, mais après ça, c'est comme on dit, c'est comme à l'accoutumée. Les enfants s'en vont à l'école, ils sont comme un peu habitués. Tu sais, quand quelqu'un est fâché contre papa, c'est un peu dans la normalité pour elle. Alors, tu sais, on n'y voit pas grand problème.
Écoute, tu ne fais pas une job banale quand même. J'aime ça parler de shop avec toi, là. Parler des coulisses du journalisme, c'est toujours intéressant. Donc, tu veux revenir quoi au parc La Fontaine?
Ouais, voilà. Alors, je reviens, si tu veux, à mes nouvelles locales, puisque j'ai maintenant percé les frontières.
T'es international, Astor.
Exact. Alors, je reviens aux nouvelles locales. Effectivement, je ne sais pas si tu as vu les images dans un texte publié par TVA Nouvelles sur les rassemblements dans les parcs. Écoute, il y avait des milliers de personnes réunies hier soir au parc La Fontaine, quelques minutes après l'annonce là du passage à 20h du couvre-feu Montréal-Laval-la-Comté de lundi. Bon, c'est bien, ils pouvaient le faire, ça je comprends bien. C'est juste que c'est le type d'image que l'on a vu qui moi suscite, en tout cas chez moi, le questionnement, parce que c'était le party, hein?
Les jeunes sont tannés, là. Il fait beau, puis tout ça. Puis on leur dit, écoute, à 8h, il fait encore clair, puis ça va être difficile de faire respecter ce nouveau couvre-feu-là.
Oui. Puis les jeunes, je crois que les jeunes qui sont exprimés là au micro de mes collègues, on fait preuve d'une franchise, puis tu sais, on analysé pour eux-mêmes là la chose de façon correcte en disant, on admet qu'on adhère moins au message du gouvernement. Et ça, qui peut les blâmer? Parce que c'est pas que les jeunes qui adhèrent moins là, au message du gouvernement. Je veux dire, il y a bien des gens qui sont plus capables de vivre dans ces conditions-là, qui font des sacrifices depuis le début, puis qui comme les jeunes, pour les citer eux-mêmes, là, disent qu'ils n'ont pas l'impression que rien ne leur est redonné au final.
Et Félix, on sait que ce couvre-feu-là, c'est pour empêcher les déplacements le soir, que mettons, les gens vont souper les uns chez les autres. Sauf que tu peux aller souper chez quelqu'un puis dormir là. T'sais, tu peux aller chez cette personne-là à 7h le soir, puis tu dors là, puis personne ne sait, là, puis tu repars le lendemain. Oui. Est-ce que ça va empêcher quoi que ce soit? Je sais pas, est-ce que ça ferait une différence de mettre ça à 9h? Y a-tu vraiment une différence entre 9h et 8h? Les gens se posent cette question-là.
Le premier ministre a répondu à cette question-là hier en disant que le couvre-feu, il y avait pas de preuves. Je pense que ils se sont fait poser la question plus d'une fois avec l'exemple ontarien. Il n'y a pas de preuves scientifiques que le couvre-feu donne des résultats dans la baisse des cas de COVID-19, mais plutôt est une manière, une mesures préventives pour faire en sorte que les gens ne se rassemblent pas. Alors, ça a été redit hier lors d'un point de presse, et puis je cite Steve Flanagan, qui avec son entrevue à Cube Radio hier, oui, là, c'était assez intéressant là, sur l'utilité des points de presse, parce que hier, au fond, le gouvernement, au point de presse de 17h, à la grand-messe, devrais-je dire, de 17h, en tout cas, ce qui était auparavant une grand-messe, là, avait absolument rien à dire. Parce que tous les messages clés, d'abord, comme ça arrive depuis le presque tout début de ces points de presse-là, sont égrenés à certains médias dont nous faisons partie là au cours de la journée. Puis quand le gouvernement arrive à 17h, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à annoncer. Je comprends que l'exercice de se placer devant les caméras pour répondre aux questions des journalistes en est un hyper important en démocratie. Ça, je le concède, évidemment. Je pourrais pas dire que le point de presse est inutile, parce que moi, plus on a accès aux décideurs comme journaliste, plus je vais pouvoir poser mes questions.
Mais j'aime ce que disait Pascal Bérubé, c'est qu'il devrait communiquer là, ce qu'il va dire aux journalistes. Et tu leur envoies un document et une demi-heure après, tu fais ton point de presse. Une fois que les journalistes ont vu avec un embargo, tu fais ton point de presse. Et là, les journalistes sont au courant, ne la prennent pas en même temps que tout le monde et peuvent préparer leurs questions et tout ça. Je sais pas, il faut remettre peut-être ça en question, ce point de presse.
Parce que journalistiquement, l'exercice, c'est l'exercice de la démocratie, ce point de presse-là aussi, parce que les journalistes, ils sont plusieurs, peuvent poser leurs questions. Dans la réalité, toutefois, moi, j'ai regardé au complet le point de presse, puis j'ai validé l'affirmation que je tiens à ton micro, à mon micro, mais à ton antenne, présentement à notre antenne, avec les nouvelles d'aujourd'hui. Pendant l'heure qu'a duré ce point de presse-là, il y a un paquet d'informations qui ont été abordées sur la vaccination, sur la santé publique, sur les mesures sanitaires, sur les nouvelles mesures sanitaires, sur les anciennes, sur la justification, sur l'affaire du yo-yo. Aujourd'hui, là, dans tous les médias du Québec, là, anglophones, francophones, imprimés, télédiffusés, radiodiffusés, qu'est-ce qu'on retient? 3 ou 4 angles, tout ça. Donc, c'est une heure. C'est une heure de blabla pour en retenir finalement que quelques angles là qui sont passés en quelques secondes qui avaient déjà été égrenés avant. Alors je me pose la question.
Ben oui, puis c'est du blabla qui répète puis tout ça puis bon puis le
c'est
gouvernement,
long hein, les points de presse.
Puis le premier ministre qui se justifie puis tout ça, puis il y a des gens qui disent ben là il utilise ça un peu pour redorer son image et tout ça. Ce que ça devrait être, tu regardes là, 5 heures, voici maintenant les points. Bang bang bang, that's it, 5 minutes. Pouf. Voilà, on annonce les nouvelles.
Je suis d'accord.
Les nouvelles mesures, et c'est tout. Écoute, tu veux me parler d'un... Moi, j'adore regarder les films avec, tu sais, des vols qui sont planifiés. Pis
oui.
Je suis pas pro-voleur. Je suis pas pour les vols, bien sûr. Mais quand tu regardes un film, pis tu vois les gens, la façon dont ils planifient les vols, on aime tout ça. Alors là, un vol audacieux dans un hôtel à Paris.
Ben oui, puis c'est pas n'importe quel hôtel. En fait, c'est au palais Georges V. Alors, je te dis que c'est l'un des plus chics de Paris. C'est des braqueurs qui ont volé pour 100 000 euros de bijoux au Georges V. Je te cite l'article du Parisien, là, qui est probablement le plus complet, là, si vous voulez aller le voir. C'est assez intéressant. Ils sont arrivés, les voleurs fracassent les vitrines à la hache. Ça s'est passé jeudi soir. Les employés étaient traumatisés, mais le mode opératoire, lui, semble-t-il, était très, très, très bien rodé. Ils sont arrivés dans le hall d'hôtel. Alors, il y avait des complices, donc plusieurs personnes. La personne avec la hache attendait devant sur un scooter, prêt à démarrer. Le gars est rentré dans la bijouterie du palais Georges V, qui est près des Champs-Élysées, je crois, ouais. Et puis, il est reparti tout de suite avec le fameux butin là, de 100 000 euros. Écoute, ça a pris quelques secondes. Il s'en
Maud Boutet, ici, qui est recherchiste à l'émission, vient de me dire ça ressemble à un épisode de Lupin. Là. Tu sais qu'Arsène Lupin est rendu très à la mode parce qu'on a fait une série avec Omar Sy. Et c'est peut-être des Français qui ont commencé à regarder Lupin puis qui ont lu des vieux livres d'Arsène Lupin. Ça leur a donné le goût de monter des coups comme ça, là.
Oui, effectivement, Maud a raison. Ça nous fait penser à la série Lupin que j'ai vue, moi aussi, excellente d'ailleurs, que j'ai fait voir à mes enfants. Écoute, ma fille de 9 ans n'en a que pour Lupin, hein? On s'entend.
Omar Sy, on veut tous que ça soit notre meilleur ami, là. On veut aller prendre une bière avec lui, c'est sûr, là. Donc, écoute, un vol assez audacieux. Et on sait, en plus, là, que c'est le super gros confinement à Paris. C'est quelque chose, et rapidement, une prison trop cruelle pour un assassin.
Oui, en quelques secondes, c'est un assassin là qui a tué son père dans l'ouest de l'île, qui a écopé là, de 25 ans de pénitencier parce que c'était un meurtre prémédité. Là, il s'est adressé au tribunal parce qu'il trouve que ses conditions sont trop sévères. Je te cite, « La prolongation de l'incarcération, au-delà de ce qui est nécessaire pour que la peine atteigne ses objectifs, dont la réhabilitation, constitue inévitablement un traitement cruel et inusité », a dit l'avocat de M. Fortier, Grenier, 26 ans. Je ne sais pas quoi dire, donc.
Des fois, les avocats en sortent des bonnes. Là. Écoute, oui. Je profite du week-end pour regarder le film The Father, qui est extraordinaire, avec Anthony Hopkins sur Apple TV. Et bon week-end, très hâte de te reparler lundi. Bon week-end, bien mérité, motherfucker! Salut!